12h30, 14h. Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Bonjour Anissa.
Et bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Dans une minute, votre journal avec Pierre de Villeneuve, bien sûr. Et puis vous allez voir qu'on va faire bouger la France. Chaussez donc vos baskets, il y a du nouveau dans le monde de la basket française et de la basket connectée. On vous attend, à tout de suite sur Europe 1.
Il est midi et demi. Le journal de la mi-journée sur Europe 1 avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Bonjour Pierre.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
L'antisémitisme est au cœur du mouvement des Gilets jaunes.
C'est Bernard-Henri Lévy qui le dit ce matin sur Europe 1, réaction qui fait suite à toute une série d'actes antisémites depuis le début du mouvement. Illustration encore hier avec l'agression ignoble du philosophe académicien Alain Finkielkraut, dossier dès le début de ce journal. Et nous poserons la question, Emmanuel Macron se joindra-t-il demain au rassemblement organisé par 14 partis politiques ? L'actualité de ce lundi, c'est aussi le film Grâce à Dieu et la polémique autour de l'utilisation du vrai nom du père Prénat dans ce long métrage de François Ozon. Détail à suivre. Dans ce journal également, l'ouverture du procès Air Cocaïne, ces pilotes français, anciens de l'aéronaval, arrêtés il y a 6 ans en République dominicaine. Une maternité de l'heure se bat pour ne pas fermer ses portes. L'innovation des éboueurs chargés de cartographier les zones blanches. C'est un reportage exclusif Europe 1 dans l'Est. Les départements qui reviennent peu à peu aux 90 km. Et le saviez-vous, le sport peut combattre la dépression. La météo, Elena Morna, et ça bouge dans le Nord-Ouest.
Oui, avec une faiblesse de l'anticyclone, résultat petite pluie et nuages cet après-midi. Beau et un peu moins doux qu'hier sur le reste du pays.
Merci Elena, on vous retrouve tout à l'heure. Météo complète, ce sera juste avant 13h sur Europe 1.
Europe 1.
Et ce week-end encore, Pierre, la France a été marquée par une agression antisémite lors de la manifestation des Gilets jaunes.
Une de plus, une de trop. Nous verrons dans un instant que ce phénomène devient inquiétant puisqu'il a tendance à se banaliser. On n'est plus du tout dans le scénario du cas isolé. Mais avant, faisons un point sur l'enquête puisqu'il s'agit de l'agression verbale, des insultes antisémites proférées à l'encontre du philosophe et académicien Alain Finkielkraut. Samedi, Guillaume Biais, vous avez, alors qu'il est plus d'éléments, notamment sur l'un des agresseurs qui a agi à visage découvert et que l'on voit sur toutes les images.
Oui, cet homme barbu avec un foulard autour du cou, c'est lui qui apparaît le plus distinctement sur l'une des vidéos à visage découvert. Cet homme a été identifié par un enquêteur puisqu'il est connu des services de renseignement. Depuis quelques années, il fréquenterait les milieux salafistes, mais pour autant, lui n'est pas considéré comme étant un islamiste radical. C'est pour ça qu'il ne figure pas dans le fichier des personnes radicalisées. En revanche, il est évidemment visé par cette enquête préliminaire qui est en cours, enquête pour injure publique en raison de la religion. C'est un délit passible d'un an de prison et 45 000 euros d'amende. Enquête confiée à la police judiciaire parisienne qui va devoir décortiquer les vidéos de la scène, acter les propos que l'on entend et surtout tenter d'établir qui les a tenus, à qui attribuer telle ou telle insulte prononcée. C'est ça le plus délicat dans cette enquête, sachant qu'il faut aussi réussir à identifier et localiser les protagonistes qui ne sont pas tous clairement visibles à l'image. C'est donc une enquête minutieuse qui a démarré, une enquête sensible et qui va sans doute prendre du temps avant d'aboutir à de premiers résultats.
Merci de ces premières précisions. Guillaume Biais, ce matin sur Europe 1, un autre philosophe, Bernard-Henri Lévy, nous expliquait que plus que dans les années 30, il se sentait dans un moment qui lui faisait penser à l'époque de l'affaire Dreyfus.
Et ce qui est marquant, Pierre, dans l'interview donnée ce matin, c'est lorsque BHL parle justement de cet antisémitisme au cœur du mouvement des Gilets jaunes. Il appelle d'ailleurs à ce que les leaders du mouvement réagissent.
La violence contre les Juifs, les slogans antisémites, c'est comme le terme de ce mouvement, l'aboutissement de cette distillation. Mmh. On commence par le référendum d'initiative citoyenne et on finit avec l'antisémitisme. On commence avec Rousseau et on finit avec Doriot. Mais ce n'est pas les marges, ça. C'est le cœur du mouvement.
C'est un nouvel antisémitisme, vous voulez dire ?
Non, c'est un antisémitisme ancien et nouveau. Il n'y a qu'un antisémitisme, c'est celui qui insulte, qui blesse et qui un jour, il analymie et d'autres tuent. Cet antisémitisme-là, il est toujours le même. Mais on ne peut pas dire malheureusement qu'il est aux marges du mouvement. Alors ça ne veut pas dire que le mouvement des Gilets jaunes ait été intrinsèquement antisémite, bien sûr que non. Mais ça veut dire en revanche qu'il serait temps que ceux qui restent des Gilets jaunes se manifestent fortement pour dire pas en notre nom et pas comme ils le font là.
Voilà, un antisémitisme qui n'est pas aux marges du mouvement des Gilets jaunes, nous dit Bernard-Henri Lévy, invité ce matin de Nikos Aliagas sur Europe 1. Beaucoup de voix s'élèvent pour demander la présence d'Emmanuel Macron au Rassemblement politique contre l'antisémitisme, place de la République, demain 19h. Encore ce matin, Olivier Faure du PS a rappelé que François Mitterrand avait participé à la marche après la profanation du cimetière de Carpentras, c'était en 1990. 14 partis, c'est pas rien, appellent à manifester, même la France Insoumise s'y rallie. Adrien Beck, vous avez posé la question à l'Élysée. Est-ce qu'Emmanuel Macron sera présent demain ?
Eh bien non, Pierre. Emmanuel Macron décline l'invitation d'Olivier Faure. L'Élysée nous l'a confirmé tout à l'heure, rappelant que le chef de l'État fera un discours sur le contexte actuel au dîner du CRIF, mercredi soir, rappelant aussi qu'il a eu personnellement Alain Finkielkraut au téléphone ce week-end. Alors, est-ce suffisant ? En tout cas, l'exécutif sera représenté à la marche. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, notamment, a fait savoir ce matin qu'il irait, tout comme son collègue des relations avec le Parlement, Marc Fesneau, était l'invité d'Audrey Crespo-Mara ce matin sur Europe 1.
Je pense que c'est la responsabilité de l'exécutif, des ministres, des parlementaires que de s'y rendre. Parce
donc
que je pense
tout
qu'il
gouvernement
faut...
s'y rendra.
Oui, on verra comment on organise les choses. Il y a toujours des sujets de sécurité, mais en tout cas la volonté gouvernementale, c'est bien d'être présent. Il y a quelque chose de latent et il faut qu'on mette un coup d'arrêt à ces éléments-là pour mettre hors de la société, au sens politique du terme, ceux qui s'expriment de cette façon-là.
Quant au parti, Laurent Wauquiez sera présent avec une bonne partie de l'état-major des Républicains. Jean-Luc Mélenchon, accusé d'avoir réagi trop tardivement, devrait aussi participer, selon son entourage. Enfin, au Rassemblement National, pas invité initialement. C'est un peu participation en ordre dispersé. Ceux qui veulent y aller iront, indique l'entourage de Marine Le Pen.
Merci Adrien Beck. Et justement, au Rassemblement National, le jeune Jordan Bardella, qui est tête de liste aux européennes, qualifie cette manifestation de petit coup de com'. Pour lui, je cite, c'est une opération d'enfumage.
Et puis Pierre, l'antisémitisme, ce n'est pas qu'en France.
Oui, à Londres, 7 députés travaillistes démissionnent, quittent le parti. Ils s'insurgent notamment contre l'antisémitisme dont est accusé Jeremy Corbyn.
Il est 12h36, vous écoutez Europe 1, la suite du journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Nous vous avons parlé du film de François Ozon, Grâce à Dieu, film qui reprend l'affaire des enfants agressés sexuellement à la fin des années 80 par un prêtre du diocèse de Lyon.
Le père Prena est dans ce film. Tous les noms des protagonistes sont changés, sauf celui du père Prena, qui est en attente de jugement, mais aussi le cardinal Barbarin, cité comme tel, et Régine Maire, qui travaillait au diocèse. Jean-Luc Boujon, vous êtes à Lyon, il y a deux affaires. Il y a ceux qui veulent le report du film et ceux qui veulent qu'on change leur nom.
Oui, effectivement, et Régine Maire fait donc partie de cela. Régine Maire, c'était une des plus proches collaboratrices du cardinal Barbarin, celle par qui il fallait absolument passer avant tout rendez-vous avec l'archevêque. Donc pour elle, l'audience, c'est tout à l'heure à 14h, devant la chambre des référés du tribunal de Lyon. Elle demande donc tout simplement que son vrai nom ne soit pas cité dans le film au nom du respect de sa vie privée et de sa tranquillité. Son avocat fait également valoir que dans le film d'Ozon, celui des victimes a été modifié, mais pas celui des membres du diocèse. Il faut donc changer toute la bande-son, exige son avocat avec cette mise en demeure qui sera examinée tout à l'heure. Et puis donc, deuxième audience cet après-midi, à Paris cette fois. On saura si la justice autorise ou non la sortie du film dans les salles mercredi. L'avocat du père Prena demande un report de cette sortie après le procès du prêtre qui devrait avoir lieu en décembre au nom de la présomption d'innocence. Prena n'a tout simplement pas encore été jugé. Or, le film le présente comme coupable d'abus sexuels sur de jeunes scouts. Écoutez la réponse du réalisateur François Ozon.
Tout ce qui concerne l'affaire a déjà été publié, les journalistes en ont parlé, toutes les déclarations dans le film qu'ils ont viennent de verbatim, de conférences de presse, de témoignages, donc il n'y a pas vraiment de surprise. C'est difficile de parler en plus de présomption d'innocence, puisqu'il y a eu en janvier le procès du cardinal Barbarin et de 5 membres de l'Église pour non-dénonciation des actes de Bernard Prena. Donc bon, voilà. Nous, on est assez sereins. Je pense que c'est une démarche qui est plus procédurale que réaliste.
Voilà, alors la justice tranchera tout à l'heure, a priori vers 16h. Précisons quand même que ce film, qui n'est pas sûr de sortir, vient d'obtenir ce week-end au Festival de Berlin le Grand Prix du jury, la distinction la plus importante après l'Ours d'Or, donc c'est quand même pas rien.
Merci Jean-Luc. Bougeons à Lyon pour Europe 1.
La justice encore avec le très attendu procès d'Air Cocaïne, Pierre, qui s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises spéciale d'Aix-en-Provence.
Et l'affaire remonte à 2013. Nous sommes à l'aéroport de Punta Cana, en République dominicaine. Deux pilotes privés, anciens de l'aéronavale, se font contrôler les bagages de leur jet. Résultat, 700 kilos de cocaïne retrouvés. Deux autres Français ont été condamnés en République dominicaine. Pierre de Cossette. On se concentre donc sur ces deux pilotes français, sachant qu'on entre dans un procès fleuve qui va durer des mois.
Oui, 2 mois précisément, et il fallait voir ce matin dans la salle d'audience devant le bureau des 5 magistrats professionnels qui vont siéger cette stupéfiante rangée de dossiers jaunes, des dizaines de milliers de pages de procédures et d'enquêtes. C'est ça, Air Cocaïne, une affaire hors norme qui commence pour nous par ces images diffusées à la télévision dominicaine une nuit de 2013. 4 hommes debout, alignés sur le tarmac le long de leur Falcon 50, éblouis par les spots des caméras. Il y a d'abord Bruno Odos et Pascal Forêt, quinquagénaire, ancien pilote de chasse passé à l'aviation d'affaires, et leurs 2 passagers dans le jet. 680 kilos de cocaïne. Ce jet devait décoller pour Saint-Tropez. Les 4 suspects se défendent. À l'époque, pour eux, c'est un coup monté. Ils n'imaginent pas qu'en France, au même moment, la justice s'intéresse déjà à 2 vols transatlantiques, dont une livraison suspecte déjà à l'aéroport de Saint-Tropez. Les 2 passagers ont été condamnés sur place où le Didier à 20 ans de prison. L'un d'eux a pu rentrer en France pour purger sa peine. Ils ne sont pas devant la cour d'assises d'Aix. En revanche, on va donc entendre les 2 pilotes, Forêt et Odos, exfiltrés, souvenez-vous, de République dominicaine lors d'une rocambolesque opération commando en bateau, alors qu'ils étaient en liberté surveillée. Leur argument depuis le début, ils n'avaient pas à se mêler de la marchandise qu'ils transportaient. Les juges d'instruction français sont au contraire convaincus qu'ils savaient parfaitement ce que contenaient ces 26 valises embarquées dans leur Falcon. À leur sujet, un collègue dira aux enquêteurs où ils sont neuneux, où ils sont dans le coup.
Merci. Pierre de Cossette, dans l'affaire Nordal-Lelandais, les gendarmes vont approfondir une 40aine de dossiers sur les 900 qui avaient été initiés après la mort de Maïlys. Concrètement, ça veut donc dire que 40 nouvelles affaires sont potentiellement devant nous et toutes liées au meurtrier présumé de la petite Maïlys et du caporal noyé.
Il est 12h40. Europe 1.
Restez avec nous dans un instant sur Europe 1. Une maternité de l'heure fait de la résistance. Agnès Buzyn est sur place. A tout de suite.
Il est 12h42 sur Europe 1, la suite du journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Agnès Buzyn est à Bernay dans l'Eure face à des habitants, Pierre, très attachés à leur maternité.
Et c'est un dossier dont Emmanuel Macron avait été personnellement saisi lors de son échange avec les maires normands à Grand-Bourterould, car Agnès Buzyn voulait remplacer et veut toujours remplacer cette maternité par un centre périnatal. Hélène Terzian, vous êtes à Bernay dans l'Eure, la ministre de la Santé vient d'arriver, a-t-elle réussi à s'expliquer ?
Alors Agnès Buzyn est arrivée à l'hôpital vers 11h moins le quart, accueillie notamment par le maire de la ville, le président du conseil régional de Normandie, Hervé Morin, et une partie du service hospitalier avec qui elle est en train de s'entretenir à huis clos. Elle devrait en fait prendre la parole d'une minute à l'autre. Agnès Buzyn devrait en tout cas confirmer que la maternité sera transformée en un centre de périnatalité, une idée d'ores et déjà dénoncé par la centaine de personnes qui manifestent devant l'hôpital. C'est le cas de Mélissa, infirmière et habitante d'un village tout près de Bernay. Elle refuse de croire en cette fermeture.
Je suis née à Bernay, ma fille qui est à côté de moi est née à Bernay, je suis enceinte de mon 2e enfant et j'espère qu'il aura l'occasion de naître à Bernay. On est une structure à taille humaine qui permet de se sentir bien quand on y rentre. La prise en charge lors de mon premier accouchement était parfaite et je n'ai pas envie de faire des kilomètres le jour où j'aurai mes premières contractions.
Car en devenant un centre de périnatalité, les femmes devront accoucher à Lisieux ou Évreux jusqu'à 3 quarts d'heure de route. Et pour les quelques gilets jaunes, hein, comme Muriel venu soutenir le maintien de la maternité, eh bien c'est contraire à leurs revendications pour plus de services publics dans les zones rurales.
Ça fait partie des services publics, donc c'est ce qu'on réclame. Et puis qui dit fermeture de maternité, dit fermeture des urgences, de la chirurgie, donc plus d'hôpital, une ville morte. Donc Bernay sera terminé, il n'y aura plus de centre des impôts, il n'y a plus de sous-préfecture, les postes vont fermer, enfin c'est lamentable.
Des manifestants qui sont toujours en ce moment devant les grilles de l'hôpital et qui scandent le slogan suivant, des bébés à Bernay.
Merci Hélène Terzian en direct de Bernay dans l'Eure pour Europe 1. Un nouveau couac pour la SNCF, les TGV Sud-Est accusent depuis ce matin plusieurs heures de retard. Romain Oquet, vous êtes gare de Lyon, vous avez l'explication et la bonne nouvelle c'est que le trafic va s'améliorer dans les prochaines heures.
Oui, l'une des 2 voies de la ligne à grande vitesse sud-est va être rouverte à la circulation d'ici 13h. Les TGV pourront circuler à vitesse normale dans les 2 sens. La fin d'une matinée compliquée car depuis 7h, une panne électrique dans Lyon, probablement une rupture de caténaire, a fortement ralenti les TGV entre Paris et Lyon. Aucune suppression de train, mais des TGV ont dû emprunter une ligne moins rapide, d'où ces retards. 2h30 pour le train de Béziers, 2h pour Marseille ou Barcelone. C'est justement là que Kevin devait passer ses vacances et en plus du retard au départ, le trajet va lui aussi être rallongé.
On va arriver avec 5 heures de retard à Barcelone. On a dû appeler l'hôtel où on était pour demander si c'était toujours possible d'arriver aussi tard. On part 3 jours, donc c'était un petit peu compliqué. Comme on arrivait à 16 heures, on avait prévu des choses pour pas perdre de temps. Et comme on arrive maintenant à presque 22 heures, on va devoir refaire le séjour complètement.
Alors, comme Kevin, les voyageurs restent malgré tout sereins. La SNCF s'engage d'ailleurs à rembourser l'intégralité du billet si le retard excède 3 heures. Le retour à la normale est prévu pour 18 heures.
Merci Romain Oquet en direct de la gare de Lyon pour Europe 1.
Il est 12h46, la suite du journal d'Europe 1 avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Et on s'intéresse maintenant, Pierre, à cette drôle de mission confiée aux éboueurs de Haute-Saône.
Et c'est pour lutter contre les zones blanches, c'est-à-dire là où il n'y a pas de réseau téléphonique. Le conseil départemental a décidé d'établir sa propre carte, indépendamment des opérateurs qu'on suspecte de surestimer leur couverture du territoire. Et puisqu'ils passent partout, ce sont les camions poubelles du territoire qui ont été équipés des instruments de mesure. Reportage à Servance, au nord de Vesoul, Arthur Elmaché.
Il collecte les déchets, ça c'est normal, comme tous les jours. En plus, ces jours-ci, avec son camion poubelle, Alexandre collecte les données dans ce joli coin de moyenne montagne où aujourd'hui encore passer un coup de fil avec son portable n'est pas donné à tout le monde.
Là, donc, on est sur le plateau des Grioux, là, au cœur des militants, en fait.
C'est beau, mais est-ce qu'il y a du réseau ?
Ça. Là, par exemple, là, on va rentrer dans cette rue-là. Vous voyez, à partir du CD de passage jusqu'à la maison, là, il n'y a pas de réseau. Là.
Et alors, c'est quoi ce gros sac noir, là, et tous ces portables qui clignotent ?
Donc, c'est la sacoche de 11 téléphones, Orange, Bouygues, Free, SFR, ouais. 2G, la 3G et la 4G. Pour voir justement où c'est que les téléphones ne captent pas encore.
Les éboueurs passent partout, ou presque, donc ça donne des cartes très précises où apparaissent des zones blanches ignorées des opérateurs, constate Rachid Mamérine de Haute-Saône Numérique.
L'avantage, c'est que maintenant, on a des preuves. Donc ça veut dire que là, l'administré pourra aller sur le site, voir où il y a un bon réseau et choisir. Parce que ces cartes-là, on va les rendre publiques. Donc les opérateurs commenceront à perdre des clients. Et quand un opérateur perd des clients, il améliore obligatoirement son réseau.
La vraie carte de la couverture mobile en Haute-Saône sera en ligne l'été prochain. Servance, Arthur Elmaché, Europe 1.
Le 80 km/h, Pierre, comme prévu, il n'a pas fait long feu.
Car les élus locaux n'ont pas lâché l'affaire, surtout depuis qu'Emmanuel Macron a laissé entendre mi-janvier que des aménagements de la loi tant décriés pourraient être bientôt possibles. Selon les informations d'Europe 1, le retour à 90 km/h, c'est déjà concret pour certains départements. C'est l'exemple dans le Loir-et-Cher, 500 km de route qui sont susceptibles d'y repasser. Reportage Victor Delande.
Sur la D110, aucune ligne au sol pour séparer les deux voies de circulation. Un constat immédiat pour Christian Viroulot, directeur des routes du département du Loir-et-Cher.
On resterait à 80, la vitesse n'est pas adaptée.
2 kilomètres plus loin, on emprunte la D924, une route avec une meilleure visibilité.
Alors là, vous voyez tout de suite le changement de caractéristiques. Plus large, plus d'accotement. Naturellement, on peut rouler à 90 et c'est pour ça que sur cette route-là, nous, on va proposer de passer de 80 à 90 et de revenir comme c'était initialement.
Ces routes, Philippe les prend tous les jours et il l'avoue, il est en permanence en infraction.
On ne respecte pas la limite. On essaie, mais on peut pas. On regarde même plus la route, on regarde le compteur.
Pour les défenseurs du 80 km/h, la vitesse est un facteur aggravant des accidents. Nicolas Perruchot, le président du département de Loir-et-Cher, ne le conteste pas, mais il attend encore qu'on lui démontre l'efficacité de cette loi.
Sur la première partie de l'année, on a eu un mort de moins que sur la deuxième partie de l'année. Donc quand on découpe l'année en deux, avant 80 et après 80, avant qu'on passe à 80, on a eu moins de morts.
Nicolas Perruchot n'attend qu'une chose, qu'Emmanuel Macron signe le décret pour pouvoir repasser ses routes à 90 km/h. Dans le Loir-et-Cher, Victor Dolande, Europe 1.
Et retour sur cette information dont nous vous parlions, le film Grâce à Dieu qui sort mercredi, le film de François Ozon, l'avocat du père Prénat qu'Europe 1 a réussi à joindre, nous dit que le juge rejette le report de la sortie du film de François Ozon qui sortira donc bien mercredi.
Et il est 12h49.
Europe 1.
Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, le sport pour soigner la dépression. Mais oui, à tout de suite.
12h51 sur Europe 1, la suite du journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Avec une nouvelle qui, décidément, va nous inciter à faire du sport.
Il n'y a pas que la pomme qui permet de se passer du docteur, il y a aussi le sport. C'est du bon sens, mais c'est une étude très sérieuse de l'INSERM qui liste 10 maladies graves qui peuvent être combattues en faisant de l'exercice. Parmi elles, l'asthme, le diabète. Mais là où c'est plus étonnant, exceptionnel, Mélanie Gomez, il y a aussi la dépression.
Oui, ces experts sont formels. À ce jour, il y a plus de 20 études scientifiques qui le prouvent. L'activité physique, ça a un impact bénéfique, y compris sur les maladies mentales comme la dépression. Et certains experts vont même encore plus loin en disant qu'aujourd'hui, on pourrait même prescrire du sport en première intention aux dépressifs légers avant d'essayer des médicaments, précise le psychologue Grégory Minot.
Un programme d'activité physique de 3 séances par semaine pendant 3 mois va avoir un effet aussi efficace qu'un antidépresseur ou qu'une psychothérapie, au même niveau et avec des effets secondaires moins importants pour les patients qui ont un trouble dépressif léger à modéré.
Et la dépression, ce n'est pas la seule maladie mentale dans laquelle des effets bénéfiques du sport ont été prouvés. À l'hôpital Sainte-Anne, par exemple, un programme d'activité physique encadré avec des patients schizophrènes a montré des résultats spectaculaires avec des malades qui ont tous pu diminuer leur dose de médicaments. D'ailleurs, on peut se demander s'il y a des sports plus efficaces que d'autres, mais en fait, il n'y en a pas un, donc ça peut être la danse, le tai chi, n'importe quoi, du moment que c'est fait avec plaisir. Et ça, c'est primordial, car quand on est malade chronique, dépressif ou asthmatique, par exemple, cette prescription de sport, c'est pas pour 2 ou 3 mois, c'est pour la vie.
Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1.
Le sport toujours, avec à nouveau une victoire du PSG, cette fois-ci face à Saint-Etienne.
1-0, un seul but, mais quel but, il y en a peu comme ça dans l'histoire. Il est signé Kylian Mbappé, Cyril Delamorinerie. Vous allez nous le décrire, tellement il est incroyable. Vous l'appelez d'ailleurs le but PlayStation.
C'est ça, il faut soit une manette de jeu, soit s'appeler JPP ou Zlatan, ou tout simplement être Kylian Mbappé. C'est une reprise de volée réalisée à l'aveugle. Dani Alves, hein, je vous explique, lui donne un ballon aérien dans son dos, frappe instantanée, ça part en lucarne. Et c'était hier soir en direct sur Europe 1 avec un but commenté par Julien Froment.
But ! Kylian Mbappé ! Qui vient nettoyer la lunette de Stéphane Ruffier sur la mauvaise relance des joueurs de l'AS Saint-Etienne. 73 minutes de jeu, 1-0 pour Paris face à Saint-Etienne.
Julien commande tous les matchs du PSG à la fin de la saison.
Ou enlever ensemble. Mon casque, évidemment.
Alors c'est un nouveau record pour Kylian Mbappé qui a marqué hier soir son 19e but en 18 matchs de Ligue 1. Aucun joueur n'a fait aussi bien depuis 45 ans. Mais au-delà de son talent incroyable, ce qui impressionne le plus le capitaine Thiago Silva, c'est sa grande maturité.
Un joueur très intelligent, il a beaucoup d'expérience déjà avec 20 ans. C'est pas normal de avoir un joueur comme ça qui prend la pression facile. Je suis content qu'il marque, qu'il est toujours présent, mais surtout qu'il joue pour l'équipe.
Ah voilà, le prodige de 20 ans porte aujourd'hui le PSG privé de Neymar et Cavani. Imaginez quand les deux cadors vont revenir, le PSG peut avoir de gros espoirs cette saison, en particulier en Ligue des Champions.
Merci Cyril Delamorinerie.
Il est 12h54.
Et je voulais terminer ce journal en musique sur un pas de deux. Ça ressemble un peu au but de Kylian Mbappé. Vous signalez l'exceptionnelle version du Lac des Cygnes que propose l'Opéra de Paris depuis ce week-end. On reprend la chorégraphie de Nureyev, on la sublime. Léonore Boulac dans le rôle d'Odette et d'Odile, donc le cygne noir et le cygne blanc. Germain Louvet dans le rôle du prince Siegfried. Et surtout, l'exceptionnelle prouesse de François Allu dans le rôle du méchant Rothbard qui manipule tout le monde. C'est totalement spectaculaire. Les quadrilles sont toutes à l'orteil près alignées. C'est véritablement le Bolshoï. Courez-y si vous pouvez. Je crois savoir que c'est presque complet. Mais tentez votre chance, on ne sait jamais.
Merci Pierre. Vous revenez d'ici quelques minutes pour l'essentiel de l'actualité.
Et il est 1h05.
Europe 1. Restez avec nous. On va parler basket tricolore et connecté aujourd'hui sur Europe 1. C'est la France qui bouge. À tout de suite.